Bonjour, ça me fait tellement plaisir de se retrouver ce matin et de vous apporter ce message. C'est un message que j'ai reçu de la part du Seigneur il y a quelque temps déjà. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est le stress, ça va passer. Ouais, je sais, je sais. Je sais que vous êtes tellement bien intentionné, donc j'ai aucune inquiétude là-dessus. Ce message, donc, je l'ai reçu un peu pendant la période de Noël, pendant qu'on était en train de préparer les fêtes de Noël, et je relisais un petit peu tout ce qui était lié à la nativité. Vous savez, tous ces chapitres de la nativité, on a deux évangiles qui décrivent, qui sont les évangiles de Luc et de Matthieu. On va passer un petit peu de temps dans l'évangile de Luc. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Oui, c'est bien. Hein, on a le droit de l'avoir en électronique, c'est pas gênant. Je m'étais refait reprendre une fois par un pasteur, mais c'est pas grave. Donc on va passer un petit peu de temps dans l'évangile de Luc. Donc vous pouvez prendre dès à présent l'évangile de Luc. Luc qui narre avec un peu de précision, hein, c'était son objectif. Lui, il n'était pas juif, mais il a essayé de resuivre un petit peu la façon dont tous les événements s'étaient passés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est dans ces temps-là, dans les temps où je relisais les chapitres sur la nativité, un petit peu ce que ça disait à mon cœur, notamment sur ce premier passage qui se trouve dans Luc 2. Et on va les lire ensemble du verset 1 et 7. Ça fiche. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et c'est cette partie-là qui m'a touché. En fait, c'est un peu comme, on va mettre le slide suivant, c'est un peu comme si c'était marqué occupé, il n'y a pas de place. Vous savez, un peu là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'avais réservé un hôtel un soir après un salon, j'étais arrivé vers 23h30, et là on m'a dit, je suis désolé monsieur, malgré votre réservation, c'est occupé, il va falloir aller autre part. Ouais. Bon ça va, c'était dans Paris, j'étais pas enceinte, tout allait bien, ça s'est bien passé, mais il n'y avait plus de place. Et quand j'ai lu ce passage-là, quand je priais sur ce passage-là pendant quelques semaines de ça, ce qui me touchait, c'est que, alors que la ville de Bethléem allait vivre l'événement le plus important de l'histoire, et je dirais même l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, la naissance, l'arrivée du Messie, l'arrivée du Sauveur, et ben la ville, il n'y avait pas de place pour lui. Et ça m'a interrogé un petit peu. Il y a un groupe chrétien qui s'appelle Casting Crowns qui a écrit un chant sur ce sujet, on l'avait repris à Noël. Voilà, c'est ce chant-là. Je vais vous le lire. Bethléem, qu'as-tu manqué durant ton sommeil, en ce jour où Dieu s'est fait homme et a marché parmi nous? Bethléem, tu entreras désormais dans l'histoire comme la ville qui n'avait pas de place pour son roi pendant que tu dormais. En fait, les Juifs de l'époque, dans Bethléem, ils connaissaient. On peut se dire, bah oui, s'ils ne savaient pas, nous c'est facile, on connaît Bethléem, mais il y avait un prophète, il y avait un prophète, Michée, qui 500, 700 ans avant, avait déjà parlé de l'arrivée du Messie à Bethléem. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, il y a deux Bethléem. Il y a deux Bethléem là-bas, et il y a un Bethléem, Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On retrouve ça dans Michée 2. Donc 700 ans avant, il était déjà annoncé, il y avait eu une promesse spécialement pour ce Bethléem. Donc ils le savaient, ils connaissaient leur Bible. D'ailleurs, on le revoit aussi dans Matthieu, que quand les mages ils vinrent voir le roi Hérode, ils disent au roi Hérode, on voudrait voir le Messie, celui qui est promis. Et là, Hérode, il demande aux scribes et aux sacrificateurs. Les scribes et les sacrificateurs, ils savent très bien où chercher. Il dit oui, en effet. Et il cite ce passage de Michée. Donc tout le monde savait bien, quelque part, qu'un jour ou l'autre, le Messie allait arriver. Et il allait arriver où ? Il allait arriver à Bethléem. Mais ce qui lui avait été donné il y a longtemps, c'est sûr, 700 ans, ça avait perdu sa force. La promesse s'était étiolée. Comme quand on reçoit quelque chose et puis le temps passe et on l'oublie. Alors il se disait que la prophétie de Dieu, peut-être elle ne s'accomplirait pas, peut-être que ça serait pour plus tard ou peut-être pour d'autres. Bref, la promesse avait été quelque part oubliée. Mais bon, on peut ne pas se sentir concerné par cette histoire. Eux, ils ne connaissaient pas Jésus comme on le connaît maintenant et ils n'avaient pas été vraiment invités. Par exemple les bergers, où ils avaient été invités, ils ont vu l'étoile, ils ont vu les anges, ils sont invités, ils sont venus. Bon. Donc on se dit, ok, c'est peut-être pas, ce passage n'est peut-être pas pour nous. Alors je vous propose toujours dans le livre de Luc, on va aller un peu plus loin, on va aller au chapitre 14. Au chapitre 14, on va regarder un autre passage où Jésus, cette fois-ci, parle des occupations, comment nous-mêmes on peut être occupés. Lisons-le ensemble dans 14 du verset 16 à 24. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. Alors le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Alors le maître dit au serviteur, tu vas dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Ouais, c'est la sentence, elle est dure. Pourtant, moi je trouve, d'une certaine façon, on peut dire, ils ont d'excellentes excuses de ne pas venir. Et chacune de ces excuses, quand on cherche un petit peu, on peut se dire que ça peut nous faire écho par rapport à des occupations personnelles. Par exemple, le champ, moi je l'attribue un petit peu à la propriété terrestre, à sa maison, hein, à son terrain. Bah, il faut passer du temps à l'entretenir, quand on cherche un nouveau logement. Hein, on a parmi vous, il y a des gens qui cherchent actuellement des maisons. Non, je ne suis pas agence immobilière. Hein. Non, mais ça prend du temps, ça occupe. D'accord ? Ça préoccupe. On compare, on ne veut pas faire d'erreur. Le passage par rapport aux bœufs, moi, ça me fait penser au travail. Est-ce que le travail est une préoccupation pour vous ? Beaucoup quand on en a, encore plus quand on n'en a pas. C'est vrai, ça peut prendre la tête, ça prend tout l'espace. Enfin, le mariage, bah, ça peut être les préoccupations sociales. Ça peut être les amis, les relations, la famille. En fait, tout ça, pour moi, ce sont des bonnes excuses. Et d'ailleurs, le roi ne critique pas le fait qu'ils aient des occupations. Le roi critique le fait que ces occupations prennent la première place. Et de dire, ton invitation, tu sais quoi, elle passera après. Mais en fait, si ça passe après, ça passe jamais. Le Seigneur est clair, il n'y aura pas de place auprès de lui pour ceux qui rejettent son appel sous prétexte des soucis du monde. D'ailleurs, dans Matthieu 6, 33, on voit bien que quand Jésus parle de ça, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces autres choses vous seront données en plus. » Ce qui veut bien dire que Jésus ne nous demande pas de tout balancer par la fenêtre. Il nous demande juste de mettre un ordre de priorité. On y reviendra. Encore une fois, on peut se sentir pas trop concerné. Après tout, je connais Jésus, j'ai répondu à son appel. Et d'ailleurs, je le sers. Mais même dans ce cas-là, Jésus nous donne des avertissements. On va remonter un petit peu, on va prendre dans Luc au chapitre 10. Versets 38 à 42, un passage qu'on connaît, on va lire ensemble, c'est l'épisode avec Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il de rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Hop. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne le sera pas. Point ôté. » Là aussi, on voit, et le reproche de Jésus est là, il est doux, mais il est là, il lui fait pointer simplement que Marthe, là aussi, n'a pas mis le bonheur dans ses priorités. Il ne critique pas le fait qu'elle serve, et d'ailleurs, s'il est rentré dans cette maison, c'est qu'il savait quelque part qu'il allait être bien accueilli. On n'allait pas lui mettre dans un coin et dire bah, « vas-y, assieds-toi là et puis débrouille-toi ». Non, non, il savait qu'il allait être servi. Mais ce service n'empêchait pas de faire attention, de dire qu'il y a un temps pour le service, mais il y a aussi un temps à prendre avec Jésus, un temps à l'écouter, un temps à apprendre de lui. Et c'est la part qu'avait choisie Marie. Et d'ailleurs, elle lui dit « c'est la meilleure part ». Donc, il la reprend avec douceur, mais... c'est quelque chose, moi, qui me touche particulièrement parce que le fait de servir Dieu, le fait de servir, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, ce n'est pas l'excuse qu'il doit prendre tout le temps pour dire « Ah, parce que je le sers, alors je n'ai pas le temps pour lire ma Bible, je n'ai pas le temps pour prendre un temps de prière, un temps de reconnaissance, un temps de louange. » Le service à l'église ne compense pas le temps qu'on passe avec Dieu. Le temps avec Dieu, c'est même la meilleure part. C'est juste de le servir et nous appelle tous à le faire. D'ailleurs, Jésus est lui-même le roi serviteur. Il est venu pour nous servir. Et nous sommes appelés à l'imiter, à le servir lui, à servir l'Église, à servir les frères et sœurs. Mais en aucun cas, cela nous exempte ou nous empêche de prendre la meilleure part, c'est-à-dire prendre du temps avec lui. Quand on regarde l'étymologie du mot « occupé », j'ai regardé dans le dictionnaire, je n'ai pas fait de latin, d'ailleurs j'étais mauvais à l'école, donc ça n'aurait pas été terrible, mais c'est « occupare ». « Occupare », c'est marrant parce que quand on regarde l'étymologie, c'est prendre la place avant les autres. Quand on est occupé, il n'y a plus de place, parce que quelque chose en a pris la place avant. Et ça pose question, est-ce qu'on n'est pas trop occupé et est-ce que cette occupation ne laisse plus de place pour Jésus ? On vient de voir à travers donc les trois évangiles, les trois passages de l'évangile de Luc, les trois situations. Pour moi, je les résume un petit peu ainsi. Le premier, dans Bethléem, c'est l'occupation à cause... de l'ignorance, ou je pense plutôt par l'oubli. Je ne crois pas qu'ils étaient ignorants de Michée. Je crois qu'ils l'avaient mis en oubli. Le deuxième qu'on a vu dans les noces, c'est les soucis du monde. Ça aussi, ça nous occupe. Le troisième, donc dans le passage de Marthe, c'est le manque de priorité. En fait, toutes ces occupations nous volent la place que devrait occuper Jésus dans notre cœur, nous vole la place du temps que Jésus devrait avoir dans nos vies. Et c'est vrai que moi, je suis du genre à faire, ma femme et mes enfants me le diraient, je suis du genre à faire beaucoup de temps de bilan, à prendre le temps d'analyser ce que je fais, comment j'ai fait l'année précédente, qu'est-ce que je peux améliorer dans l'année qui vient. Et dans ces temps de nouvelle année, j'aime bien revoir mes priorités, regarder mon agenda, regarder tous les événements qui vont arriver dans l'année, organiser tout ça. Mais c'est aussi un bon moment aussi pour s'interroger sur la place qu'occupe Jésus dans nos agendas et nos journées. Je voudrais vous faire une petite anecdote. Vous ne la trouverez pas dans la Bible, celle-là. Je ne sais plus trop d'où elle vient. Je ne sais même pas si c'est une histoire vraie, mais c'est une anecdote que j'aime bien. C'est l'histoire d'un grand patron de boîte, un grand PDG d'une grosse société. Il était chez lui, c'était le week-end, il travaillait à la maison, dans son bureau, et préparait sa semaine. Et son petit garçon, il vient le voir pour lui dire bonne nuit. Il s'approche de lui, il voit que son père travaille, il reste quelques secondes à le regarder. Puis il interroge, il lui demande « Papa, mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors son père, doucement, se tourne vers lui et lui dit « Bah, tu vois, je suis en train d'organiser mon agenda pour toutes les semaines qui sont à venir. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes importantes à voir. J'ai plein de personnes avec qui je dois organiser des choses, avec qui je dois préparer de grands projets. Et c'est important que je note bien tous les moments où je dois passer du temps avec eux pour pouvoir échanger, partager, projeter. Et si je ne le fais pas, si je ne le fais pas longtemps à l'avance, eh bien les journées vont passer, j'aurai plus de temps et en fait je vais m'apercevoir qu'il y aura plein de projets, plein de choses qui n'auront jamais abouti. Donc c'est important que je marque le nom de toutes ces personnes dans son agenda. Tu comprends ? Petit garçon, il hoche la tête, mais il demande à son père « Et il y a mon nom aussi dans ton agenda ?» Ça, c'est quelque chose qui m'a touché à titre personnel, d'abord pour ma famille, mais aussi par rapport à Jésus. Notre temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas retrouver. L'argent, on peut le perdre, le retrouver. Il y a beaucoup de choses qu'on peut perdre et retrouver. La seule chose qu'on ne pourra jamais retrouver, c'est le temps qui est passé. C'est la ressource la plus précieuse que nous avons. Une passe ne revient pas. C'est pourquoi la Bible nous appelle à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. C'est le psaume 90, au verset 12. Moi, ce qui me touche, un peu en guise de conclusion, c'est que on a beaucoup de simplicité, on en parlait ce matin avec le groupe de louanges. Quelle simplicité nous avons comme accès au Père ? Principalement à cause de ce qu'a fait Jésus, uniquement à cause de ce qu'a fait Jésus. S'il n'y avait pas Jésus, l'accès au Père, il serait fermé, la porte, elle serait fermée. Mais elle est ouverte, c'est Jésus qui l'a fait. Lisons dans Hébreux 4, versets 15 à 16. « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Alors, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Moi, j'adore ce verset parce qu'il me rappelle à quel point Jésus est accessible à tout moment. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu spécifique. On n'a pas besoin de préparer des choses bien particulières. Je suis allé souvent en Asie. Et quand je vois toutes les choses qu'on doit faire avant de pouvoir faire la prière dans cette religion-là, je me dis, ils sont bien compliqués. Moi, il suffit, même dans ma chambre d'hôtel, de fermer la porte, d'être tranquille, d'éteindre mon téléphone et de prendre du temps avec mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller faire 15 fois le tour avec de l'encens partout. Alors, dans une chambre d'hôtel, si je me mets à brûler de l'encens, je pense que je vais avoir des problèmes. Non, l'accès à Jésus, l'accès à Dieu est simple. Comme on l'a chanté, venir passer un moment avec lui, s'approcher de lui. Tous ces chants-là nous racontent à quel point Dieu aime que nous passions du temps avec lui. Dans Apocalypse 3:20, dans la lettre à Laodicée, Jésus frappe à la porte et il attend. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » De nouveau, c'est une invitation au souper. Hein, ça vous rappelle un petit peu ce qu'on a lu dans Luc. Une invitation au souper. Quand j'invite quelqu'un à la maison, C'est pas prévu pour se faire en 2 minutes. Vous imaginez, vous êtes invité chez quelqu'un, il vous dit « Ok, tu viens, l'ouvre la porte, assieds-toi, je te balance un bout de pain, bah, dépêche-toi parce que j'ai que 2 minutes aujourd'hui, tu t'en vas. » Est-ce que Jésus, quand il nous dit « on a envie de passer du temps avec nous », quand il vient souper avec nous, c'est pas pour juste faire un petit coucou d'une minute. Il n'attend pas de nous un texto ou un WhatsApp. Il n'attend pas un Twitter de quelques centaines de caractères. Il attend vraiment un temps de qualité. Vous savez, il y a 2 types de temps dans les Grecs. On ne va pas faire du grec maintenant après qu'on a fait du latin, mais moi, c'est ce qui m'avait touché quand j'avais vu ça une fois. Il y a le temps qui passe, le chronos, et le temps de qualité, le kéros. Le temps de qualité, c'est le temps dont on se souvient. On dit toujours qu'il y a des moments dans la vie dont on se souvient plus qu'on plus. Voilà, il y a plein de choses qu'on oublie, mais il y a des temps, on s'en souvient même si on était tout petit et qu'on devient beaucoup plus vieux, on s'en souvient toute sa vie. Et pourtant, c'est peut-être des instants de quelques secondes. C'est ces instants-là que Jésus veut que nous vivions avec lui. Des moments dont on se souvient réellement, des moments qui nous impactent, des moments qui nous transforment. Ça ne peut pas être vécu à la va-vite. Si on laisse juste à Jésus une place comme ça dans notre agenda, mais qui n'a pas de valeur, bah ça n'aura pas plus de valeur qu'on lui en donne. Combien de fois on laisse Jésus à la porte de nos vies, de nos journées, de nos préoccupations ? C'est marrant parce qu'en fait, celui qui peut résoudre tous les problèmes qui nous prennent la tête et qui nous volent le temps, c'est précisément celui qu'on laisse dehors. C'est idiot, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. En tout cas, comme ça que je fonctionne. Alors moi, mon souhait pour cette année, pour moi-même, pour vous, pour toute l'Église, c'est que nous apprenions à prendre la bonne part, à ne pas être comme les habitants de Bethléem, c'est-à-dire oublier les promesses que Dieu a pu vous déposer dans vos cœurs il y a quelques années, ou il y a quelques mois, il y a quelques temps, de ne pas les mettre en oubli. Quand Dieu dit quelque chose, sa parole s'accomplit certainement. Que nous apprenions aussi à ne pas être comme les invités de la noce, à être trop occupés pour oublier où est la priorité. Et ne pas prétexter qu'on est trop occupé aussi dans l'Église pour dire bah, pff, ça suffit, j'ai fait ma part. Prions. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Je veux te remercier pour le message que tu as déposé dans mon cœur, parce que je sais qu'il s'adresse d'abord à moi, mais je pense que ça résonne dans le cœur de beaucoup de personnes. Alors je te prie vraiment, Seigneur, de continuer à travailler nos cœurs dans ces temps-là. Apprends-nous, dans cette nouvelle année qui s'ouvre, à bien compter nos jours, à savoir qu'ils sont précieux, chacun d'entre eux. Tu es le Dieu créateur, Seigneur, tu ne fais pas des temps qui ne servent à rien. Et tout temps qu'on prend avec toi est un temps où tu es capable de transformer nos cœurs, nos vies, nos situations. C'est vrai, comme l'a rappelé Serge, parfois tu permets que nous vivions des temps de tempête. Mais même dans ces temps-là, Seigneur, tu as quelque chose à nous dire, à nous apprendre. Je te prie réellement, Seigneur, vraiment, sincèrement, apprends-nous à être vigilant sur le temps qui passe, sur nos priorités, et à développer avec toi une intimité en 2020 telle qu'on ne l'a jamais connue auparavant. Peu importe le temps, le nombre d'années, Seigneur, qu'on te connaît, qu'on soit nouveau dans la foi ou qu'on y soit depuis des dizaines et des dizaines d'années. Toi, Seigneur, pour toi, le temps n'a pas de prise. Mais chaque instant, Seigneur, tu es capable de nous bénir, de nous transformer et de nous amener plus près de toi. Amen. Merci.